Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier.
Sans transition.
L'enveloppe nanana.
Au sommaire des enjeux, les résultats de l'élection présidentielle du 20 mai au Venezuela.
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
C'est ça, avec 68% des voix, mais 52% d'abstention et une reconnaissance internationale plus que problématique. La réélection de Nicolas Maduro à la présidence du Venezuela était peut-être prévisible, mais elle ne lève pas l'incertitude sur la suite. Au contraire, bonjour François-Xavier Frelan.
Bonjour.
Et merci d'être au téléphone avec nous, journaliste, ancien correspondant pour France 24 et RFI à Caracas, auteur notamment de « Qui veut la peau d'Hugo Chavez ?», c'était au Cherche Midi en 2012. Alors ils m'ont sous-estimé, en tout cas a déclaré le président Maduro hier à ses partisans, puisqu'après les régionales et les municipales en fin d'année dernière, eh bien le PSUV, Parti Socialiste Unifié du Venezuela, vient de remporter son troisième scrutin populaire à l'issue de 3 années de contestation et de crise pour ce président Maduro. Victoire fragile donc, avec un boycott de l'opposition et 75% d'impopularité selon un des principaux instituts de sondage. Un pays discrédité sur la scène internationale, sous le coup désormais de nouvelles sanctions américaines et au bord de la rupture économique, ce n'est pas rien de le dire. Un temps porté par la hausse des cours du pétrole, eh bien on voit que la popularité du président Maduro s'est effondrée, peut-être du bolivarisme aussi, avec elle en tout cas un resserrement autoritaire. Alors tous avec Maduro, loyauté et avenir, c'était le slogan. On parle d'un madurisme aujourd'hui, mais pour aller où sans l'adhésion populaire, François-Xavier Frelan? D'abord peut-être votre analyse de ce scrutin qu'on a dit largement frauduleux, c'est vrai, et également 52% d'abstention, c'est quand même le plus fort taux qu'on ait jamais vu.
Oui, ça c'est les chiffres officiels, tout le monde dénonce des fraudes, hein. Même, vous savez, la dissidente chaviste Luisa Ortega Díaz, l'ancienne procureure au général du Venezuela, qui a dû s'enfuir, parce qu'elle a eu quelques ennuis avec le régime, depuis Bogota, elle a dénoncé évidemment une élection complètement ridicule et évidemment des chiffres totalement faussés. Il faut savoir que l'opposition, elle, parle de 80% d'abstention, ce qui pourrait, à mon avis, être un chiffre beaucoup plus exact, sachant que, vous l'avez dit tout à l'heure, 75% au moins des Vénézuéliens sont mécontents de Maduro. Donc vous voyez, on retrouverait à peu près les mêmes chiffres. J'étais à la frontière du Venezuela, en Colombie, il y a encore quelques jours, et j'ai vu, c'est vraiment cette vague humaine, des milliers, mais des milliers de Vénézuéliens, des quartiers pauvres des grandes villes du Venezuela, fuir le régime de Maduro. Ce sont d'anciens électeurs chavistes, pour la plupart, il faut bien en avoir conscience, ceux qui traversent actuellement le pont de Cucuta par la voie terrestre, eh bien, ce sont pour la plupart des gens qui ont cru au chavisme, qui ont même parfois été satisfaits, surtout de Chavez. Pour certains, d'ailleurs, ils gardent une certaine foi pour l'ancien feu commandante Hugo Chavez. Maintenant, ces gens fuient parce qu'ils n'ont plus de quoi manger, parce qu'ils n'ont plus de quoi se soigner, et parce qu'ils ont peur, parce que c'est un régime, comme l'a dit l'écrivain intellectuel vénézuélien, Alberto Barrera Tisca, eh bien, c'est une nouvelle sorte de régime tyrannique, c'est-à-dire qu'on fait pression sur les gens dans les quartiers populaires. On a fait pression durant l'élection pour qu'ils aillent voter en faisant du chantage sur les aides sociales, etc. Et puis, vous avez énormément de prisonniers politiques actuellement dans le pays. Donc c'est réellement aujourd'hui un régime qui ressemble à une dictature. Il n'y a même plus de doute.
Oui, on va revenir sur les conséquences internationales de cet exil ou exode de la population et des opposants. Mais ça veut dire que ce fameux candidat de l'opposition, enfin dissident chaviste, Henri Falcón, qui avait quand même certains atouts, n'est pas arrivé à séduire, justement à cause de quoi? Parce qu'il y a eu ce boycott de l'opposition, parce qu'il n'a pas su séduire les déçus du chavisme même?
Oui, alors vous l'avez dit, c'est avant d'être un dissident chaviste, c'est un dissident de l'opposition, parce qu'en fait, il faisait partie de l'Union démocratique de l'opposition, celle qui a donc invité les Vénézuéliens à boycotter le scrutin, ce qui a été majoritairement suivi. D'ailleurs, on peut le dire, c'est une victoire de l'opposition, cette pseudo-victoire de Nicolas Maduro, sachant qu'il aurait été élu au grand maximum par peut-être 30% des électeurs vénézuéliens, avec en plus des soupçons de fraude massive. On peut dire qu'en tous les cas, Falcón était là peut-être pour donner un semblant d'apparence démocratique au régime Maduro, mais dans la réalité, il faut rappeler quand même que ce monsieur a été un des plus fidèles chavistes de la première heure, hein, des années 98 à 2017. Il a joué un rôle, il a été maire de Barquisimeto, qui est une grande ville de l'ouest du pays, il a été gouverneur de la région de Lara, enfin c'est quelqu'un qui a pendant longtemps défendu les couleurs du Parti Socialiste Uni du Venezuela. Donc personne n'était dupe. Maintenant, voilà, aujourd'hui on se retrouve dans un pays où majoritairement les gens ont montré qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce régime, ouais. Et un président qui, comme l'a dit un exilé, pardon, un réfugié en Colombie, me l'a dit, si ça continue, Nicolas Maduro va se retrouver tout seul dans son pays.
Ouais, cela dit, dernière chose sur lui, André Falcón, il n'était pas crédible parce que quand même, certes, il était au PSUV pendant longtemps, mais il est passé assez tôt à cette fameuse plateforme d'opposition démocratique en 2009, justement au moment de ce référendum qui octroyait un allongement indéfini d'à peu près tous les mandats.
Oui, alors c'est sûr qu'après, il est revenu un peu dans l'opposition, mais beaucoup le soupçonnaient d'être une espèce de sous-marin dans l'opposition, parce que on ne le faisait pas confiance, parce qu'il avait quand même été très longtemps très proche d'Hugo Chavez, et que par conséquent, sa candidature aux élections récentes, pour beaucoup de Vénézuéliens, n'était pas crédible. Et d'ailleurs, il a fait un score assez médiocre, si l'on en croit les résultats officiels. Donc ce monsieur, aujourd'hui, n'a sans doute pas beaucoup d'avenir dans ce pays. En revanche, celle que j'ai cité tout à l'heure, Luisa Ortega Díaz, qui a été elle aussi très proche d'Hugo Chavez et qui est aujourd'hui en exil en Colombie, eh bien aujourd'hui elle est un petit peu vue comme une espèce de Dilma Rousseff, une espèce d'avenir possible, un nouveau souffle pour le chavisme. Et puis évidemment, il ne faut pas oublier les autres chefs de l'opposition, dont les trois quarts sont inéligibles. Ils ont été très actifs, notamment pour faire le tour des chancelleries. Moi j'en ai rencontré certains à Bruxelles, à l'Union Européenne, notamment Julio Borges, donc peut-être vos auditeurs se souviennent. C'était celui qui avait négocié avec le gouvernement Maduro pour essayer de trouver une solution pour revenir, ouais, un petit peu sur les dernières décisions.
Ancien président du Parlement, oui.
Voilà, l'ancien président du Parlement, et qui est donc est vu comme un modéré. Il appartient au parti Primero Justicia. C'est un centriste de gauche. En tous les cas, c'est comme ça que lui se définit. Eh bien, cet homme-là est allé voir Macron, le président français, est allé un peu partout essayer d'obtenir eh bien, le soutien, hein, de la communauté internationale qui, aujourd'hui, je vous le rappelle, condamne assez massivement cette élection.
C'est ça, y compris ce fameux groupe de Lima de 14 pays d'Amérique latine qui s'est constitué l'année dernière en opposition à cette gouvernance Maduro. Justement, on parlait du Parlement. Si on essaye juste de qualifier le régime aujourd'hui, beaucoup parlent de dérive autoritaire, c'est encore les mots du Brésil, mais plus précisément, il y a ce Parlement qui est quand même acquis à l'opposition depuis 2015, qui est neutralisé par la Cour suprême aujourd'hui, et ce président qui ne sait pas arroger tous les pouvoirs. Est-ce que c'est pas un édifice institutionnel très fragile malgré toutes les victoires électorales quand même?
Mais complètement, mais les analystes vous diront que ce qui sauve Maduro aujourd'hui, c'est pas sa popularité, on sait très bien qu'il est très impopulaire, ce sont ses amis. Ce sont ses amis, c'est-à-dire ses alliés internationaux. Maduro est protégé par la Russie de Poutine, par la Chine actuelle, et puis aussi par différents pays, comme Cuba évidemment, qui trouve son intérêt à conserver ce lien très fort avec un pays qui lui fournit toujours du pétrole à bon prix et qui est son principal soutien dans la sous-région. Donc Nicolas Maduro, aujourd'hui, est un chef d'État latino-américain qui, quelque part, est là pour préserver les intérêts de certaines grandes puissances dans la région, effectivement, face aux États-Unis.
Vous êtes en Colombie en ce moment où il y a 550 000 Vénézuéliens. Il y en a aussi au Pérou, il y en a au Chili qui ont pris des mesures pour les accueillir. Est-ce qu'il n'y a pas là un paysage un peu nouveau à partir de l'opposition et tout simplement de cette intégration des Vénézuéliens qui se dessine pour les années à venir?
En tout cas, je peux vous dire que pour être allé à Cucuta, donc à la frontière vénézuélienne, et être actuellement à Bogota, c'est très impressionnant. On ne parle pas de réfugiés d'ailleurs, tout simplement, quand on pense aux Vénézuéliens, alors que ce sont, vous l'avez dit, environ 500 000 et peut-être beaucoup plus, c'est difficile de quantifier. On parle en tous les cas de 3 millions d'exilés vénézuéliens partout dans le monde. Quand on est à Bogota, il n'y a pas un bar ou un restaurant, un hôtel de la capitale où on ne retrouve pas un jeune vénézuélien. Ce sont des gamins, des garçons, des enfants, des filles qui ont entre 18 et 25 ans, qui n'ont pas pu terminer leur scolarité ou leur université au Venezuela parce que, justement, à cause d'un régime qui les empêche finalement, notamment, de pouvoir se nourrir, de pouvoir étudier. Donc c'est très 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 choquant et c'est très inquiétant pour un pays qui est en train de se vider de ses forces vives. Ce qui est sûr, c'est que le Venezuela de Maduro ne peut pas durer définitivement dans cette situation. sachant qu'effectivement, il y a une forte impopularité, ce qui est la grosse différence avec Cuba. La réputation de la révolution bolivarienne est morte avec la disparition de son principal leader, Hugo Chavez.
Eh bien, c'est dit, voilà, qui veut la peau d'Hugo Chavez. On pourra aussi demander qui veut la peau de Nicolas Maduro aujourd'hui. Autre question. Merci beaucoup, en tout cas, François-Xavier Frelon. Vous étiez depuis Bogota, et puis on renverra à votre livre Qui veut la peau d'Hugo Chavez, donc au Cherche Midi en 2012. Et puis je vous donne rendez-vous à demain pour évoquer cette fois Ebola en République démocratique du Congo.